Vous êtes avec SBS French.
Et on commence avec les grands titres de l'actualité pour aujourd'hui. Les prochaines 48 heures seront cruciales pour le Victoria, à savoir ou non si le cas des Covid-19 trouvé récemment s'est propagé. Pour le moment, zéro nouveau cas ont été dépistés dans l'État. Et en France, la polémique autour des dividendes du laboratoire Sanofi. Je vous le disais en titre, pour les autorités sanitaires du Victoria, les deux prochains jours seront cruciaux pour être sûr de l'arrêt de l'épidémie de Covid-19 dans l'État. Il n'y a aucun nouveau cas de coronavirus acquis localement hier, alors que les 17 principaux contacts étroits, domestiques et sociaux liés au cas du virus du Grand Hyatt à Melbourne ont été tous testés négatifs. Avec l'Open d'Australie qui devrait commencer lundi, les autorités sanitaires apportent des changements au système de quarantaine des hôtels pour pouvoir s'assurer que la variante britannique plus contagieuse du virus ne devienne pas incontrôlable. La ministre des services d'urgence du Victoria, Lisa Neville, déclare que le virus est en constante mutation, ce qui signifie que le système de quarantaine des hôtels de l'État doit toujours être renforcé. On l'écoute.
We'll continue to work with our infection prevention control experts, look at the ventilation, do what any changes we need to make to ensure we have the safest program we can. Of course, it will still never be without risk, but we are looking to always, every day, review what we do to make sure we are leading the country and the world in terms of our hotel quarantine program and reducing risk and the opportunity for this to get out into our community.
Voilà, donc c'était la ministre des services d'urgence du Victoria, Lisa Neville. Il est bien la même situation en Grande-Bretagne où les préoccupations relatives aux variants donc du Covid-19 dans les hôtels sont partagées par les autorités au Royaume-Uni. Des groupes hôteliers et les partis travaillistes d'opposition ont critiqué le projet du gouvernement donc britannique visant à obliger les voyageurs arrivant dans le pays qui sont sur une liste rouge au coronavirus de s'auto-isoler dans une chambre d'hôtel approuvé et tout pendant 10 jours. Les leaders de l'hôtellerie affirment de ne pas avoir été suffisamment prévenus. Ils n'ont pas suffisamment de temps pour se préparer. Le ministre des Affaires étrangères, James Cleverly, a déclaré que le gouvernement travaillait avec des pays ayant déjà mis en place des mesures similaires pour voir comment le système fonctionnait.
We've been working with international partners who have put a similar package in place, New Zealand, Australia, for example, to see how that works. And we want to make sure that this works, that we give the hotel industry notice. Obviously, not every hotel will be doing this. And so it's unsurprising that some hotel chains haven't been contacted.
Donc le ministre des Affaires étrangères britannique James Cleverly. En France, c'est plus de 22 000 nouveaux cas qui ont été décelés hier. La pression reste donc forte sur les hôpitaux et le gouvernement ne souhaite pas reconfiner, en tout cas pas pour le moment. Les professionnels de santé s'inquiètent de la prolifération des cas variants dans le pays et le nerf de la guerre, c'est donc les vaccins. Et en France, un troisième vaccin vient d'être autorisé, c'est AstraZeneca. Simon Roset.
Objectif, 4 millions de personnes vaccinées à la fin du mois de février en France. Après ceux de Moderna et Pfizer, le vaccin d'AstraZeneca vient ainsi grossir les stocks disponibles. Son utilisation marque cependant une rupture avec les deux précédents. En effet, plus simple d'utilisation, il ne nécessite pas de logistique lourde, un réfrigérateur suffit pour le conserver. Il sera ainsi disponible notamment en pharmacie et pourra être administré sur place. Deux doses seront nécessaires, espacées de 3 mois maximum. Ce vaccin souffre néanmoins d'une limite de taille. Par manque de données, son efficacité sur les plus de 65 ans n'est pas connue avec précision. Il n'est donc pas recommandé pour eux. C'est ainsi le personnel soignant qui est prioritaire pour le recevoir. Suivent ensuite les 50-65 ans avec comorbidité, puis l'ensemble de cette classe d'âge. Les plus âgés continueront, eux, à recevoir les vaccins de Pfizer et Moderna. Quant au reste de la population, ce sera pour plus tard, quand il y aura moins de tension sur les stocks, avec tout de même un objectif affiché de l'exécutif: que tous les adultes qui le souhaitent puissent être vaccinés d'ici la fin de l'été.
Et c'était Simon Roset pour RFI. L'Organisation mondiale de la santé affirme que le nombre de personnes qui ont reçu au moins une dose du vaccin contre le Covid-19 est désormais supérieur au nombre de personnes infectées. Mais le directeur général de l'OMS, Tedros Ghebreyesus, avertit que davantage doit être fait pour aider les pays et certains pays, car les trois quarts des personnes vaccinées ne sont que dans 10 pays, dans près de 130 autres pays, donc qui ont une population combinée d'au moins 2,5 milliards de personnes. Pas une seule dose de vaccin contre le coronavirus n'a été administrée. L'OMS appelle donc les pays riches disposant de stocks de vaccins à donner des doses aux pays en développement une fois que leur population à haut risque auront été vaccinées. Il craint que le fait de ne pas vacciner des groupes entiers de personnes ne puisse qu'aggraver la pandémie. On écoute Tedros Ghebreyesus.
The longer it takes to vaccinate those most at risk everywhere, the more opportunity we give the virus to mutate and evade vaccines. In other words, unless we suppress the virus everywhere, we could end up back at square one.
C'était donc Tedros Ghebreyesus de l'OMS. On continue notre tour du monde du Covid. Le Sénat américain a adopté un plan budgétaire permettant aux démocrates de mettre le plan de secours contre le Covid-19, un plan de 1,9 milliard de dollars en action, plan du président Joe Biden. Le tout sera sur une voie plus rapide pour devenir une législation sans le soutien des républicains. La vice-présidente Kamala Harris a prononcé le vote décisif au Sénat. Le président Biden a déclaré que son plan de sauvetage aidera le pays à traverser la pandémie, qu'il promet d'inclure des chèques de secours de 1 400 $. On l'écoute.
It's big and it's bold, and it's a real answer to the crisis we're in. That's one more thing, and I want to say it very clearly on this. Be very clear on this point. It's better economics. It not only addresses the immediate crisis we're in. It's better for the long-term economic health of our nation and our competitiveness. My plan creates more jobs, creates more economic growth, and does more to make us competitive with the rest of the world.
Voilà donc le président américain Joe Biden. Retour en France maintenant et cette polémique autour des dividendes versés aux actionnaires du laboratoire Sanofi. 4 milliards d'euros dans une année alors même que l'entreprise a annoncé un plan social et 1 700 suppressions de postes dans le monde et un retard important sur le développement de son vaccin contre le coronavirus. Et la pilule passe plutôt mal pour les salariés. On écoute Thierry Baudin du syndicat de la CGT chez Sanofi.
En France, c'est 420 postes en réalité qui sont supprimés. Il faut savoir qu'en 12 ans, c'est plus de la moitié des effectifs de la recherche et développement de Sanofi qui ont été sacrifiés en France. Le budget d'investissement en R&D baisse de 8,1% de plus de 500 millions d'euros. Et ça concerne tout particulièrement les activités de recherche interne au sein du groupe. Donc voilà, c'est clairement la stratégie pour toujours augmenter les dividendes. On sacrifie dans ce qui est essentiel, bien évidemment la R&D, mais aussi nos collègues de l'industriel qui sont également dans la tourmente. Donc oui, on est complètement dégoûté et on dénonce aussi l'attitude du gouvernement qui ne fait rien, mais strictement rien, pour contrecarrer les dirigeants de cette entreprise, alors que ça va très clairement à l'encontre de ce qui est annoncé en termes de souveraineté sanitaire et d'indépendance thérapeutique.
C'était Thierry Baudin du syndicat CGT chez Sanofi. La chef de l'opposition biélorusse, Svetlana Tikhanovskaya, appelle à ce que de nouvelles manifestations aient lieu lors de l'Assemblée populaire dans toute la Biélorussie. Une assemblée populaire qui sera tenue par le président Alexander Loukachenko les 11 et 12 février. Des événements de ce type, donc des manifestations, ont déjà eu lieu partout dans le pays depuis les résultats de l'élection présidentielle. C'était le 9 août 2020 et cette élection avait vu M. Loukachenko revendiquer la victoire. Cependant, l'opposition et ses partisans ont refusé de reconnaître les résultats, affirmant que les votes étaient frauduleux. Les protestations ont diminué en raison de l'arrivée du temps très froid dans le pays, mais aussi de la lassitude des Bélarusses face à une répression policière souvent très violente. Monsieur Loukachenko a déclaré que l'Assemblée visera à atténuer la colère du public et à arrêter les manifestations. Mais pour l'opposition, rien ne peut empêcher les gens de manifester pour leurs droits. On écoute.
People will go out to protest on the day of the All Belarus People's Assembly that aims to discuss prospects for the country's development, because they gather weekly in courtyards and districts, despite detentions and repressions. They are much more than the 2,700 delegates who try to substitute the people's voice.
Voilà, donc les propos traduits de Svetlana Tikhanovskaya, la chef de l'opposition biélorusse. En pleine visite de la du chef de la diplomatie européenne à Moscou, la Russie a décidé d'expulser certains diplomates européens, un Suédois, un Polonais et un Allemand, pour avoir apparemment participé à des manifestations pro-Alexei Navalny, alors que ce dernier est toujours en prison. Les différents pays, donc la Pologne, la Suède et les Allemands, ont bien entendu dit qu'ils n'avaient pas participé à ces manifestations. Mais voici la situation qui devient de plus en plus complexe en Russie. Quelques éléments de réponse avec Florent Parmentier. Il est enseignant à Sciences Po Paris.
Josep Borrell fait partie de ces anciens ministres espagnols qui s'occupaient d'affaires étrangères pendant longtemps, pour lequel finalement, quand on est en mauvaise situation de dialogue, il ne faut pas hésiter à parler. Tout au contraire, en fait, d'une approche qui consisterait à finalement boycotter tel ou tel partenaire. Donc, d'un côté, nous avons Josep Borrell qui vient avec cette prise de position-là, en tout cas cette perspective-là, et effectivement, le fait que des diplomates suédois, allemands et polonais soient expulsés dans le même temps paraît, dans le pire des cas, maladroit, mais plus probablement approprié de la part des autorités russes. On peut voir deux choses, soit une volonté de couper le dialogue avec les Européens, de donner une fin de non-recevoir, ou on peut aussi voir ça finalement comme une volonté de diviser les Européens, d'imposer un rapport de force, et peut-être de créer une diversion par rapport au cas Navalny et par rapport aux manifestations qui ont lieu en Russie.
Allez, 13h13, coup d'œil météo à travers le pays pour aujourd'hui. À Perth, il fera 23 degrés, Adélaïde 23, Melbourne 25, Hobart 27, Canberra 26, Sydney 27, Brisbane 32 degrés, Cairns 31 degrés et à Darwin 31 degrés également. Un rappel des grands titres de l'actualité pour aujourd'hui, ce 6 février. Les prochaines 48 heures seront bien cruciaux pour le Victoria, à savoir ou non si les cas de Covid-19 trouvés récemment autour de l'Australian Open s'est propagé. Aujourd'hui, il y a eu zéro nouveau cas dans l'État. Et en France, on l'a vu, la polémique autour des dividendes du laboratoire Sanofi. Allez, on fait une courte pause et on se retrouve dans quelques instants pour une page de sport un petit peu spéciale. A tout de suite.
Vous aimez le programme en français? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/sbsfrench.
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/sbsfrench.